10h. Les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebrun.
Et avec nous ce matin au bout du fil, le docteur Ariane Garber. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire, vous soignez depuis de nombreuses années les chats, les chiens, les chevaux et les nouveaux animaux de compagnie. Et vous vous êtes formé à la phytothérapie et l'aromathérapie. Mais c'est nouveau ça, parce que je savais que les huiles essentielles et plantes ça marche sur les humains, mais ça marche aussi sur les animaux alors?
Oui, ça marche sur les animaux, on le sait depuis longtemps, mais on ne l'applique pas depuis longtemps, parce que ce n'est pas étudié dans nos facultés, malheureusement pour l'instant en tout cas. Oui. Et donc c'est une discipline qui se développe progressivement avec des cours qu'on peut prendre via des universités ou des formations spéciales pour les professionnels en rapport avec les plantes, que ce soit les plantes en poudre, phytothérapie ou alors les plantes en huile essentielle avec l'aromathérapie.
Voilà, donc la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes médicinales et l'aromathérapie, les huiles essentielles, hein, c'est bien ça?
Tout à fait. Dans les deux cas, ce sont des plantes médicinales, mais la forme n'est pas tout à fait la même. Au niveau de l'aromathérapie, c'est juste les huiles essentielles, accessoirement les hydrolats aussi. Mais en ce qui concerne la phytothérapie, là, on a une grande gamme de formes de plantes différentes. Moi, personnellement, j'ai fait le choix des poudres sèches, qui sont beaucoup plus faciles à donner dans des rations ménagères ou avec l'alimentation de l'animal. On l'a aussi sous forme de bourgeons, de macérats de bourgeons, de teintures mères ou ce genre de choses, avec juste un petit bémol par rapport à ces autres préparations, c'est que très souvent, elles contiennent de l'alcool. Or, l'alcool est déconseillé chez les animaux, d'où mon choix des plantes sèches.
Vous venez de sortir le grand livre des médecines naturelles pour mon chien et mon chat aux éditions Erol. Est-ce que la phytothérapie et l'aromathérapie, ça peut remplacer un médicament par exemple, ou ça vient en complément ou en préventif? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phytothérapie préventive.
Exactement. En fait, la force des plantes, en plus de donner des actions médicinales classiques, par exemple des plantes anti-inflammatoires, des plantes antispasmodiques ou ce genre de choses qu'on a en fait avec des médicaments, une petite parenthèse, il faut savoir que beaucoup de médicaments viennent d'extraits de plantes, l'aspirine par exemple, et donc je referme la parenthèse, et donc en plus de ces actions médicinales classiques, les plantes ont la particularité, quand on les connaît bien, de pouvoir refaire des tissus, ce qu'on n'a pas avec des médicaments classiques. Je m'explique, on peut par exemple refaire des tendons, on peut refaire du cartilage, on peut renforcer les parois des vaisseaux sanguins pour éviter les AVC. Donc il y a un levier très puissant de consolidation de structures anatomiques qui permettent à ce moment-là ou de traiter quand il y a une pathologie, voire carrément de renforcer un tissu avant qu'il ne lâche. Je pense par exemple au vaisseau sanguin. Quand on a un animal âgé, on peut parfaitement le mettre pendant sous 2-3 cures par année de plantes qui vont aider les vaisseaux sanguins à se renforcer pour lui éviter par exemple un AVC.
Et est-ce que les chiens ou les chats sont plus réceptifs ou inversement?
Ils sont tous très réceptifs, les chevaux aussi.
On ne
doit pas donner des grandes quantités. Je pense que c'est une des premières choses qui m'a scotché, entre guillemets, quand j'ai commencé, puisque j'ai commencé il y a une bonne vingtaine d'années en autodidacte, avec des chevaux de course. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas donner beaucoup de plantes, il faut juste bien les choisir. Par exemple, pour les chevaux, on est de l'ordre de 15 grammes par jour. Je vois parfois des poudres qui sont proposées à l'ordre de 50 grammes ou 100 grammes par jour. Ça n'a pas de sens. D'abord, c'est de trop. Ou alors, il y a des mélanges qui contiennent plus de la farine que des plantes. Mais quand on fait de la bonne phytothérapie, les dosages sont très légers. Le chat, par exemple, c'est de l'ordre entre 1 et 3 grammes par jour. On fait des cures courtes et on se rend compte qu'à ce moment-là, on a assez vite des résultats. L'avantage, c'est qu'on n'a pas l'effet placebo avec les animaux. Ils ne savent pas qu'on leur donne des plantes, ou alors ils le sentent, mais ils ne font pas le lien. Et donc, quand au bout d'une semaine, par exemple, pour une entorse, un cheval ou un chien, il ne boite plus, on sait que c'est les plantes qui ont aidé, évidemment.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors, votre chat, votre chien a peut-être quelques soucis de santé actuellement, le système digestif par exemple, vous le sentez stressé, ça se peut aussi, ou un chien un peu âgé ou un chat âgé. L'aromathérapie ou la phytothérapie peut-être l'aider. Cela dit, vous utilisez peut-être déjà d'ailleurs des plantes ou des huiles essentielles pour vos animaux de compagnie. Venez nous raconter, on vous attend au 02 35 07 66 66 et vous repartez avec un exemplaire du livre du docteur Ariane Garber que l'on retrouve après ce tube de l'été 2020, Master 4G et Nancebo Zikodé, Jérusalema sur France Bleu.
Jerusalem, ikayala mi, ilondoloze, mama y callar a mí. Y lo no lo sé.
Ça, c'était le tube de l'été 2020.
Tous les dimanches, les animaux ont la cote sur France Bleu Normandie.
Et nous sommes ce matin avec le docteur Ariane Gerber, vétérinaire, médecin vétérinaire spécialisé en phytothérapie et aromathérapie. Les plantes, les huiles essentielles, ça fonctionne aussi chez les animaux. Mais attention, ça ne s'utilise pas n'importe comment, c'est comme pour les humains. Vous l'avez même évoqué un petit peu tout à l'heure, docteur Gerber. J'ai l'impression qu'on lit tout et n'importe quoi sur le net. Faut avoir un minimum de connaissances pour les utiliser quand même.
Oui, malheureusement, c'est d'être ce qui m'a motivée à écrire le livre. Il y a énormément d'informations sur Internet, il y a énormément de livres sur l'aromathérapie ou la phytothérapie animale qui sont publiés, mais sans vouloir être méchante, 9 fois sur 10, les conseils ne sont pas bons parce que les plantes ont tapé à côté. Ou alors, dans certains cas, on utilise des préparations qui peuvent poser problème, parce qu'elles sont mal acceptées par l'animal, voire qu'elles peuvent avoir certains inconvénients. Je pense notamment à énormément de livres sur l'aromathérapie animale. Or, on sait que les huiles essentielles chez les animaux, il faut faire très attention. On les utilise plutôt par voie externe. On évite de les faire avaler. À part quelques exceptions, encore faut-il bien connaître sa matière. Et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de conseils. On leur met sur le dos un cocktail d'huile essentielle, soi-disant contre les puces ou ce genre de choses. Et en fait, ça va plus déranger l'animal au niveau olfactif, être une pollution olfactive pour lui. Donc le stresser notamment chez le chat, et dans certains cas ça peut même être dermocaustique, ça peut brûler sa peau, donc voilà,
oui,
c'est pour ça que j'ai écrit le livre.
Le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien, et c'est sorti chez Erol Éditions. Alors on évoque les chats, les chiens, éventuellement les chevaux, il paraît que ça peut marcher sur les vaches aussi. Thierry est avec nous, bonjour Thierry.
Bonjour.
C'est ça, vous utilisez l'aromathérapie pour les vaches?
Voilà, je voulais apporter mon témoignage parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que je soigne les vaches en aromathérapie. Voilà, donc j'ai suivi une formation avec la Chambre d'agriculture, donc un spécialiste en aromathérapie qui nous a expliqué les bases, et ensuite chaque pathologie a ses huiles bien spécifiques.
Et justement, donc, pour quel type de pathologie vous faites appel aux huiles essentielles?
Ça peut être pour les problèmes respiratoires. Chez les vaches laitières, on a aussi les infections mammaires, ce qu'on appelle les mammites. donc que j'utilise aussi pour soigner les mammites. Donc c'est les principales causes. Et après, voilà, c'est enfin ça peut être des toutes les pathologies peuvent se soigner avec l'aromathérapie.
Bon, ça ne vous surprend pas, docteur Gerber, les vaches?
Non. Pas du tout. Tous les animaux, en règle générale, peuvent avoir des plantes, que ce soit par voie interne ou externe, suivant les indications. C'est vrai que, légalement parlant, on est fortement limité, notamment chez les animaux de production, les animaux de rente, ceux qui sont destinés en fait à la consommation, que ce soit via leur lait ou via leur viande. Mais c'est vrai que on a un grand mouvement depuis quelques années avec des vétérinaires comme moi qui ouvrons des portes qui sont un peu avant-gardistes et qui, avec notre expérience, le fait qu'on écrive des articles, qu'on montre des photos et qu'on prouve à nos confrères et nos consoeurs que ça marche et que ce sont des voies vraiment très intéressantes, des voies d'avenir. Je dirais qu'on a lancé le mouvement il y a en effet une bonne dizaine d'années, une petite quinzaine d'années maintenant avec les précurseurs, parce que les gens se rendent compte qu'en effet ça marche, tout à fait.
Thierry, je vous offre le livre de notre invité ce matin, le grand livre des médecines naturelles pour mon chat, mon chien, et éventuellement, vous allez peut-être les utiliser aussi, tous les conseils que vous allez y trouver. Pour les vaches. Merci Thierry pour votre appel. Okay. Passez un bon dimanche.
Merci.
À bientôt.
Merci à vous. Bon week-end.
La question que je me pose, docteur Gerber, est-ce que certains animaux peuvent être allergiques à certaines plantes? Est-ce qu'il faut tester d'abord un peu comme on fait ça pour nous aussi, les humains? On teste d'abord un peu les huiles essentielles ou les plantes pour vérifier qu'on n'est pas allergique?
Alors oui, il vaut mieux tester. Moi personnellement, il y a déjà très longtemps, quand j'ai commencé avec les plantes, je suis une scientifique avant tout. Je suis une vétérinaire, je ne crache pas sur ma première formation. Et donc, d'ailleurs, un des prochains livres qui va normalement arriver cette année-ci, c'est la phytothérapie en expliquant les molécules. Oui. C'est-à-dire que je me base sur les molécules qu'elles contiennent pour savoir si en effet on a tel risque de toxicité, d'inconvénients, d'efficacité ou autre. Et donc, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a certaines plantes qui peuvent avoir quelques effets secondaires. Et donc là, dans mon listing de plantes avec lesquelles je travaille, j'ai éliminé toutes ces plantes-là. Parce que l'avantage de la phytothérapie, c'est que c'est tellement vaste. C'est-à-dire que je prends un exemple. J'ai eu le cas la semaine passée d'une dame qui me disait qu'elle pensait drainer le foie de son cheval avec du radis noir. Et je lui ai expliqué que le radis noir est intéressant, mais ce n'est pas un très gros draineur hépatique. Et en plus, il a un goût assez fort parce qu'il a décomposé soufré très très important. Mm-hmm. Alors qu'en fait, une plante comme l'artichaut, chardon-marie, on a beaucoup moins de mauvais goût, entre guillemets, avec des principes actifs qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus draineurs, et donc qui ont une activité de drainage hépatique beaucoup plus intéressante. Oui. Voilà. Et donc, en faisant ce choix-là, j'ai éliminé toutes les plantes qui peuvent être problématiques, type allergie ou autre, ce qui fait que, franchement, dans ma pratique, là, depuis maintenant plus de 15 ans, enfin 20 ans avec les chevaux, mais 20 ans d'une façon très générale, avec les chiens et les chats, je constate qu'en fait, j'ai pas de ce problème-là.
D'accord.
Mais c'est parce que, justement, j'ai fait un choix très draconien au niveau des plantes.
Ouais,
donc
ouais.
Pour les gens qui n'ont pas cette connaissance, ou bien ils se réfèrent sur mes plantes que j'ai dans le livre, là pour le coup ils peuvent y aller les yeux fermés. Si jamais il y a un problème, qu'ils reviennent vers moi pour que j'apprenne qu'en effet on peut avoir des problèmes. Mais sinon, s'ils ont affaire à une plante qu'ils ne connaissent pas ou qui n'est pas référée dans le livre, à ce moment-là qu'ils fassent un petit test avec une petite dose pendant un jour ou deux, qu'ils voient comment l'animal réagit, que ce soit en plante, poudre sèche à avaler ou en huile essentielle.
Ouais.
Et qui voient comment l'animal réagit, oui.
Ça vous est déjà arrivé d'utiliser des plantes ou des huiles essentielles pour votre animal de compagnie? Vous nous racontez ce matin, ou alors vous avez besoin de conseils justement parce que vous constatez un petit souci chez votre animal. N'hésitez pas, je rappelle le livre que vient de sortir notre invité, le docteur Gerber, chez Erol Éditions, le grand livre des médecines naturelles. On vous écoute avec plaisir, vous nous appelez au 02 35 07 à 66 66.
Salut France Bleu, c'est Patrick Fiori.
Le sang est libre.
France Bleu présente Patrick Fiori en tournée dans toute la France. Patrick Fiori remonte sur scène en 2024 pour un moment de partage bienveillant et généreux.
On se retrouve très bientôt, tout près de chez vous.
Patrick Fiori, au Zénith de Rouen, jeudi 28 mars, 20h30, billetterie zénithderouen.com.
Une tournée France Bleu.
Tout savoir sur le site pour les personnes âgées.gouv.fr. Lynn, bonjour. José, votre mari est atteint de la maladie d'Alzheimer et vous l'aidez au quotidien. Il y a quelques semaines, vous étiez à bout de souffle. Qui vous a aidé?
Eh bien, j'ai contacté un professionnel d'une plateforme d'accompagnement et de répit. Mmh. J'ai pu parler de mes difficultés en tant qu'aidante et j'ai été écoutée.
Quelle solution vous a été proposée?
Il m'a expliqué qu'il existe des lieux où José peut être accueilli pendant la journée quand je me sens trop fatiguée. Mmh. Il pourra faire des activités et je pourrai avoir du temps pour moi et reprendre des forces.
Merci à vous, Lynn. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site pourlespersonnesagees.gouv.fr.
Ceci est un message du service public de l'autonomie avec le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Inès, je sais comment vous faire économiser de l'argent.
Ah, bah alors dites-moi tout, Cerise, parce que ma voiture vient de me lâcher et je vais devoir la remplacer.
Vous saviez que chez Groupama, nos nouveaux clients économisent en moyenne 212 euros sur leur assurance auto?
Vraiment?
Eh oui, vous proposez des tarifs compétitifs, c'est aussi ça être assureur mutualiste.
Oh bah en route vers les économies, Cerise.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Des primates, des antilopes, des oiseaux, des pandarous. Le parc de Claire ouvre ses portes le 16 mars. Profitez d'un vaste parc botanique et animalier autour d'un lac et d'un château renaissance avec des milliers d'animaux en liberté. Ouvert 7 jours sur 7 entre Rouen et Dieppe. Du 16 mars au 17 novembre. Plus d'infos sur parcdeclaire.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici.
L'infotrafic 100% local, avec Plein Air Normandie, le spécialiste du camping-car, ouvert du lundi au samedi, zone commerciale de Sainte-Marie-des-Champs à Yvetot. Info sur plein-air.fr.
Ça roule ce matin, il n'y a pas de souci particulier à ma connaissance sur les routes de la région, mais les chaussées sont humides et le bac de Quillebeuf-sur-Seine, Port-Jérôme est à l'arrêt pour une opération de maintenance. 9h30, vous voulez un peu de soleil avant de poursuivre les experts des animaux sur les huiles essentielles? Clo-clo!
Regarde ta montre, il est déjà 8h, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. Trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts.
Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil, le lundi au soleil.
À l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour, les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit.
Soleil, mais plutôt dans l'après-midi. Hein. Demain matin, ce sera encore assez gris et humide. Claude François qui nous quittait il y a 46 ans, le 11 mars en 78.
Jusqu'à 10h, les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebras.
Les médecines naturelles peuvent aussi aider les animaux à calmer certaines pathologies. Nous sommes avec le docteur Gerber, vétérinaire spécialisé dans la phytothérapie et l'aromathérapie. Je rappelle votre livre qui vient de sortir, le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien. Séverine nous rejoint également. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Auriez-vous une question pour le docteur Gerber ?
Alors oui, effectivement, j'ai une petite chienne cavalier King Charles croisée un peu cocker qui s'est mise à tousser beaucoup, etc. Donc après plusieurs examens, on s'est aperçu qu'elle avait une maladie cardiaque, enfin elle avait un cœur qui était trop gros. Mm-hmm. Donc elle a des médicaments matin et soir pour ça. Mais en fait, la toux ne s'est pas arrêtée. Elle tousse. Alors elle aime bien jouer avec ses petits joujoux, donc dès qu'elle s'énerve un petit peu, elle a tendance à tousser. Et même la nuit, beaucoup. Alors on m'a dit que c'est parce qu'en fait, le cœur, quand elle aime bien dormir sur le dos, le cœur écrase un petit peu la trachée, des choses comme ça. Mais même quand elle est allongée sur le ventre, on va dire, ça lui fait quand même. Et oui. quand elle arrête de tousser, eh bien, elle est très essoufflée. Mmh. Et je voulais savoir s'il y avait un remède, un antitoussif naturel ou pas.
Ouais. Est-ce que justement l'aromathérapie, la phytothérapie, ça peut aider, docteur Gerber ?
Oui, tout à fait. J'ai énormément de cas de ce point de vue-là, avec cette pathologie, que ce soit chez cette race ou alors chez des animaux plus âgés. C'est assez physiologique, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est dans ces cas-là, dans cette pathologie-là, la plupart du temps, on se focalise sur le cœur. Et de fait, il faut traiter le cœur avec des médicaments, des antiarythmiques et ce genre de choses. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est un système cardiovasculaire. Et donc, on oublie les vaisseaux sanguins. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour aider les vaisseaux sanguins à être un peu plus renforcés et éviter que cette eau au niveau des poumons qui diffuse littéralement à travers les alvéoles pulmonaires et qui font qu'à ce moment-là, l'animal a de la toux, mmh. On peut renforcer les vaisseaux sanguins. Et donc ça, c'est notamment un mélange, hein, je peux le citer rapidement. Oui. On mélange de la poudre de cassis avec la poudre de myrtille, la poudre d'amamélis et la poudre de prêle. On rajoute un tout petit peu de levure de bière pour que le goût passe un petit peu mieux. Et en fait, en donnant ça sur 10-15 jours, on se rend compte que les vaisseaux sanguins sont renforcés dans tout l'organisme, mais notamment au niveau respiratoire. Et à ce moment-là, ça diminue l'œdème. Ça ne va peut-être pas totalement le supprimer, ce qui nécessitera à ce moment-là de rajouter par exemple une plante comme le pissenlit qui est un léger diurétique, la prêle étant diurétique aussi, mais on peut diminuer à ce moment-là les médicaments de type diurétique et surtout on va faire en sorte que cette toux elle soit moins forte, moins puissante et qu'avec le temps, eh bien en fait l'animal ne se fatigue pas à tousser parce que ça fatigue le cœur. En fait,
oui,
on oublie,
oui, voilà.
On croit que le problème est à la base au niveau du cœur et en fait assez souvent c'est au niveau respiratoire. Oui. Comme il y a de l'œdème, le sang est moins oxygéné et donc c'est le cœur qui doit pomper plus vite et qui se fatigue. Donc il faut traiter les deux en fait, tout simplement.
Séverine, vous avez bien fait de nous appeler. Je vous offre le livre du docteur Gerber et vous allez trouver tout plein de conseils. Merci beaucoup Séverine et passez une bonne journée. Votre animal a quelques douleurs en ce moment justement. Il a peut-être des problèmes pour digérer, est-ce que vous avez pensé aux plantes, aux huiles essentielles? Eh ben, venez poser la question, demander si c'est faisable, si on peut utiliser tout ça à notre invité ce matin. On se retrouve après Stéphane.
Je lui écris, j'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd, je sens ses yeux. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi.
t'es cool, mais toi et moi, ça va pas le faire. En tout cas, prends soin de toi.
L'album sortira l'été prochain, été 2024. On en écoutait un extrait à l'instant. Ma chérie Stéphane, la chanteuse suisse.
Tous les dimanches, les animaux ont la cote sur France Bleu Normandie.
Soigner mon animal naturellement, prévenir les problèmes de santé. On feuillette depuis 9h le livre du docteur Gerber qui est avec nous. Le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien, paru chez Erol Édition. Et je crois que Martine a une question pour vous, docteur Gerber. Bonjour Martine.
Oui, bonjour à vous.
Votre question.
Je vous appelle savoir qu'est-ce que l'on peut utiliser contre les parasites pucétiques.
Les puces, les tiques, est-ce qu'il y a des huiles essentielles, les plantes, docteur Gerber?
Ça, c'est une question extrêmement fréquente et pour laquelle c'est vrai que la phytothérapie a une petite limite. En fait, il faut savoir que les plantes, contre les parasites, les plantes, en fait, développent des principes actifs contre les pathologies qu'elles rencontrent elles-mêmes. C'est-à-dire contre les bactéries, les virus et ce genre de choses. Elles n'ont pas trop de problèmes de parasites et donc elles ne font pas énormément de molécules contre les parasites. C'est pour ça que la phytothérapie a une limite au niveau antiparasitaire. Ce qui se passe, c'est qu'il existe des plantes antiparasitaires, mais qui sont ou pas du tout efficaces, ou beaucoup trop puissantes pour les chiens et les chats. Alors, elles sont fortement étudiées pour des pathologies type paludisme et ce genre de choses, mais c'est pas des pathologies qu'on a ça chez nous. Et donc, nous, c'est plutôt les puces et les tiques qui, en fait, n'embêtent pas les plantes. Donc, concrètement, les huiles essentielles vont plutôt avoir un effet répulsif. Les puces vont sentir l'odeur et ne pas aimer, et elles vont ne pas aller sur le chien ou le chat. Le problème, c'est que ça va aussi être assez désagréable pour le chien ou le chat. En plus, ce n'est pas rémanent. C'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps dans le temps. Au bout de quelques heures, les huiles essentielles se sont évaporées, oui. Et donc ça n'agit pas, il faut en mettre 3-4 fois par jour, ce qui n'est pas très pratique. En fait, pour cette raison-là que la partie antiparasitaire en phyto et ou en aroma, malgré qu'on a un paquet de formules, de recettes qui sont mises sur internet ou dans les livres, franchement, je les déconseille. Il vaudra mieux à ce moment-là utiliser un usage parcimonieux et raisonné et raisonnable des molécules chimiques des plus anciennes, celles qui sont à action courte, qui durent 4 semaines, 6 semaines, et en mettre que concrètement si l'animal est vraiment infesté. Moi, je donne toujours un exemple. Par exemple, on ne met pas de shampoing anti-poux tant qu'on n'a pas de poux sur la tête. Eh bien, en fait, il faut faire la même chose pour les chiens ou les chats. On attend que son animal attire les tiques ou les puces en quantité pour en mettre vraiment mettre du produit de façon parcimonieuse. Et on se rend compte qu'en fait, sur une année, on n'en met pas très souvent. On en met peut-être une ou deux fois au printemps. Et puis c'est tout.
C'est vrai,
et on ne met pas systématiquement. Mais c'est vrai que par rapport aux plantes proprement dit, alors l'ail, je sais que pour les chevaux, par exemple, on peut donner de l'ail, mais l'ail n'est pas très vermicide, il est plutôt vermifuge. Et les chevaux, les herbivores, peuvent manger de l'ail. Mais pas les chiens et les chats, chez qui ça provoque des anémies hémolytiques. Donc vous voyez, on a cette espèce de limite.
Quoi, il faut avoir une passionnée comme vous aussi, et bien s'y connaître pour ne pas faire des erreurs. Voilà Martine, pour vous également un exemplaire du grand livre des médecines naturelles signé Dr Gerber qui est avec nous. D'autres questions à venir, on va parler stress, anxiété, petits problèmes également, je sais pas, au niveau du dos par exemple, est-ce que ça peut soulager les huiles essentielles, les plantes? Restez avec nous, les experts des animaux ce matin jusqu'à 10h.
Something's wrong, you're not naive. You must be strong.
Shy avec Kadja Gougou sur France Bleu.
Tous les dimanches, 9h-10h, les experts animaux sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebras.
Et si les plantes, les huiles essentielles arrivaient à soulager certains maux chez nos animaux, les chiens et les chats notamment, on en discute ensemble depuis 9h avec le docteur Ariane Gerber qui vient de sortir un livre sur le sujet. Liliane a une question je crois ce matin, vous êtes à Beuzeville. Bonjour Liliane.
Bonjour à tous. Oui, j'ai un labrador qui va avoir 13 ans,
oui.
Qui depuis 6 mois a des problèmes de dos. Donc j'ai déjà pour lui rencontré un ostéopathe qui lui a fait quelques séances, mais ça revient et des moments il se bloque complètement.
Alors docteur Gerber, est-ce que là encore les plantes, les huiles essentielles peuvent intervenir pour calmer, pour soulager?
Après, oui, tout à fait. Le secret de bien soigner, c'est avant tout de faire un bon diagnostic. Donc quand on dit qu'il y a un problème de dos, il faut savoir exactement de quoi il s'agit. Si c'est un problème plutôt nerveux, au niveau de la moelle épinière, on a parfois des chiens un peu grands qui ont une espèce de paralysie du train arrière, ou alors on a, la plupart du temps, chez les vieux animaux, c'est un problème d'arthrose. C'est le premier problème auquel je pense pour votre chien. Voilà. Et dans ce cas-là, en effet, il y a moyen de combiner des plantes et ce qu'on appelle des chondronutriments, ce que j'appelle des chondronutriments qui sont mieux connus sous le nom de chondroprotecteurs et qui peuvent en fait renforcer le cartilage. En fait, on refait du cartilage et quand le cartilage se réépaissit, il assure sa fonction normalement et les douleurs disparaissent. Je compare toujours les cartilages avec des pneus de voiture. C'est-à-dire que ça évite, ça amortit les chocs, ça permet à ce moment-là, entre deux os, de faire en sorte qu'ils ne se cognent pas, d'où la comparaison avec les pneus de voiture. Et donc, quand on regonfle ces pneus de voiture, on roule mieux et on a moins de problèmes. On a moins de fissures au niveau du pneu. Et on peut parfaitement le faire. Il y a une formule dans le livre qui permet de refaire du cartilage. Il faut un peu de patience parce que ce n'est pas immédiat. Oui. Mais souvent, avec une ou deux cures, on se rend compte que l'animal, sa mobilité, il la retrouve progressivement. Le matin, en hiver, il se réveille un peu plus facilement, il se lève plus vite, ça bouge mieux. Oui. Il ne va pas retrouver sa prime jeunesse, mais ça va aller franchement mieux.
Eh ben voilà, je vous offre le livre, Liliane. Comme ça, vous allez trouver les conseils dans ce grand livre de médecine naturelle pour mon chat et mon chien. Est-ce que en 10 secondes, docteur Gerber, vous pouvez me dire que ça peut aussi calmer tout ce qui est stress, anxiété chez l'animal?
Oui, il y a énormément de plantes qui sont calmantes, apaisantes, qui vont jouer sur le système des neurotransmetteurs en augmentant l'un, en calmant l'autre, sans aucune dépendance. On n'est pas du tout dans les antidépresseurs classiques. Moi, personnellement, je les utilise pas. Et on a des très, très bons résultats. Même si, très souvent, il faut chercher la cause du stress. Parce que, calmer le chien, c'est bien, ou le chat, mais savoir pourquoi est-ce qu'il est stressé sera plus intéressant de cibler la cause, en fait. Puis-je rajouter une petite chose?
Bien sûr.
Aux parasites externes et internes.
Oui.
Parce que les gens sont souvent frustrés que je dis qu'il n'y a pas grand chose. Et en fait, il faut savoir que dans le livre, il y a 12 pages qui sont consacrées à comment gérer les puces ou les tiques de mon chat et de mon chien en fonction des cas, des saisonnalités, des choses comme ça. Vraiment des exemples bien concrets avec des conseils bien pratiques pour que justement les gens ne soient pas frustrés par rapport aux tiques et aux puces.
C'est pour Martine qui posait sa question sur les parasites et qui aura l'occasion de consulter tranquillement votre livre. C'est le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien. Ça vient de paraître chez Erol Éditions. C'était un plaisir de vous entendre ce matin, docteur Gerber.
Merci à vous.
Vous reviendrez, d'accord?
C'est gentil, il n'y a pas de souci.
Bonne journée et à bientôt. Et dans 3 minutes, on va changer de sujet. On va s'intéresser aux hérissons, figurez-vous, ce matin. Les hérissons qui sont de retour avec le printemps. Et j'aurai là aussi quelques exemplaires d'un livre bien illustré sur les hérissons à vous offrir. D'abord, Mon amour, la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Slimane sur France Bleu.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. C'est tout ça sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. C'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux.
Slimane, c'est la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision le samedi 11 mai prochain. Slimane qui devait venir chanter au Zénith du Rouen le 3 mai, mais en raison de l'Eurovision, bah, c'est un peu décalé. Finalement, il viendra le samedi 22 juin.
Jusqu'à 10h, les experts animaux du week-end sur France Bleu Normandie. Isabelle Lebras.
Et pour terminer cette émission des experts des animaux ce matin, nous allons nous intéresser aux hérissons avec Nicolas Klatka. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous faites partie du groupe Mammalogique Normand. Alors avant d'évoquer les hérissons, vous nous présentez ce groupe en quelques mots ?
Alors c'est une association d'études et de protection des mammifères sauvages sur toute la région Normandie. Donc on va travailler aussi bien sur les mammifères marins que sur les mammifères terrestres ou les chauves-souris.
D'accord. Et également sur les hérissons, parce que je voulais qu'on évoque les hérissons avec vous ce matin. Le hérisson qui est hiverne, mais là il va ressortir du coup puisque le printemps s'installe.
Alors effectivement, alors on dit hiberne, c'est-à-dire...
Hiberne qu'on dit, d'accord.
Oui, hiberne, parce qu'en fait la différence, si vous voulez, c'est que l'hivernation pour un animal, il reste quand même assez actif quand il hiverne. Par exemple, l'écureuil roux va rester actif, mais un peu moins qu'en période estivale. Et le hérisson, par contre, lui, il va baisser complètement son métabolisme, il va baisser sa respiration, son rythme cardiaque, pour en fait moins se dépenser les réserves qu'il a, puisqu'il va plus avoir de nourriture en hiver.
Et là, il va ressortir.
Et là, il a même déjà commencé depuis mars. J'ai des observations de personnes qui m'envoient des photos, des vidéos, qui m'annoncent avoir vu un hérisson se promener. Donc là, ça a déjà commencé. En fait, ce qui se passe, c'est que le hérisson d'Europe sort souvent d'hibernation quand on va dire plusieurs facteurs sont favorables. Déjà la douceur. La douceur, ça amène quoi ? Ça amène les insectes, les invertébrés dont il se nourrit. Donc en fait, s'il y a la nourriture, le hérisson, il va pouvoir chasser. Il a plus besoin d'hiberner en fait.
Ça veut dire qu'il a un rôle dans la biodiversité aussi. S'il mange les insectes pour le jardin, par exemple, c'est bien ?
Exactement. Alors on dit que c'est un auxiliaire du jardin. En fait, il va sinon se nourrir, c'est vrai qu'ils peuvent attaquer vos potagers, vos fleurs. Donc il va se nourrir de carabes, de coléoptères. Il va se nourrir aussi d'escargots, de limaces, de vers de terre, etc. En fait, tous les petits invertébrés qu'il va retrouver en fait en se promenant.
Il faut le protéger. Si on trouve un hérisson dans son jardin, qu'est-ce que vous conseillez ?
Alors, faut le laisser, parce qu'en fait, c'est un animal sauvage. S'il est dans votre jardin, c'est-à-dire qu'il a un accès et qu'il est intéressé par votre espace, donc il va aller chasser les invertébrés qu'il y a dans le jardin, et ensuite il va repartir. Un jardin, ça ne lui suffit pas. En fait, il va se promener dans différents jardins. Il faut plusieurs hectares de domaine vital par individu. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment toute une série de jardins pour trouver de quoi se nourrir suffisamment.
Alors le problème, c'est qu'on en voit souvent, trop souvent écrasés sur les routes aussi, les hérissons.
Oui, alors c'est, on va dire que ça fait partie des très grandes menaces pour le hérisson d'Europe. C'est effectivement les routes et donc les collisions routières. En fait, ce qui se passe, c'est comme je l'ai dit tout de suite, c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'espace pour chasser, trouver des abris, trouver une femelle pour un mâle. Donc en se promenant, forcément, ça va être vite fragmenté, il va vite tomber sur des grillages, des murs, et devoir emprunter les trottoirs et les routes. Donc c'est pour ça que ça fait partie des grandes causes de mortalité pour l'animal. Donc en fait, la meilleure des choses, c'est par exemple un projet qu'on a lancé avec le groupe Magique Normand, c'est de recréer des passages entre les jardins, entre les espaces verts, pour éviter que l'animal se retrouve à utiliser les trottoirs et les routes.
La route des hérissons, hein, c'est ça ?
C'est ça. Alors ça s'appelle Pique en ville, c'est un programme régional, et effectivement, ça correspond à une route à hérissons.
Et il y a combien de piquants sur le dos de l'animal ?
Alors c'est très variable, on dit qu'il y en a entre 5000 et 7000.
Ah ouais, d'accord. Bon, les hérissons, on les aime, il faut les protéger. Vous aurez peut-être plus d'infos sur le site du groupe Mammalogique Normand, si on pianote sur votre site.
Oui, c'est ça. Alors vous pouvez aller sur le site du groupe Mammalogique Normand ou nous contacter directement, hein, si vous voulez plus d'informations, ne serait-ce que sur le programme Pique en ville ou sur le hérisson d'Europe, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Le groupe Mammalogique Normand, dont vous faites partie, Nicolas Klatka. Ben, merci beaucoup pour ces quelques mots sur les hérissons ce matin. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup à vous. Au revoir.
Et pour prolonger cette discussion, je vais vous offrir un livre qui vient de sortir chez Larousse. Ça s'appelle « Sauvons les hérissons ». C'est un ouvrage très illustré qui dresse justement un portrait complet des hérissons. 02 35 07 66 66 pour repartir avec un exemplaire ce matin.